CFM Cahors, le mag.
Bienvenue sur CFM Cahors, merci d'être avec nous. C'est l'heure de votre magazine. On va s'intéresser, comme on le fait très régulièrement, on fait des gros plans sur des associations. Et puis celle-là, elle mérite quand même que l'on en parle, d'autant plus qu'on est dans une période où la parole des femmes se libère quand même. Alors je ne parle pas de ces histoires d'harcèlement ou autre. Là, on va aller dans un sujet beaucoup plus profond encore, bien qu'il soit tout aussi Alors je suis en train de m'embarquer dans une mauvaise passe sans vouloir vexer. Il y a effectivement le côté où on a le harcèlement et autres. Et puis il y a ces femmes qui sont coincées dans leur vie parce qu'il y a ces violences familiales. Eh bien l'association Pause au fil à eau est là pour venir nous parler de leur action. C'est quand même la seule association dans le département, il me semble, et on va nous le confirmer dans quelques instants avec nos invités, qui s'occupe de ce problème-là et d'apporter de l'aide à ces femmes qui se retrouvent du jour au lendemain sans presque rien. Vous allez le comprendre avec nos invités qui sont là. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure du mag. Et nos invités aujourd'hui, c'est le président de l'association Pause au fil à eau, Michel Arnoux, bonjour.
Bonjour.
Et puis une salariée qui est donc accompagnatrice éducative et sociale, c'est Lucille Patronil. Bonjour Lucille.
Bonjour.
Alors je me suis un peu emmêlé dans la présentation, mais c'est vrai que les sujets sont tout aussi graves quand on parle de harcèlement. Je faisais allusion au fameux MeToo où la parole des femmes se libère. Le sujet que l'on va parler, c'est la même chose. La violence, on va dire intraconjugale, au niveau par les femmes, ça se libère de plus en plus aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que tu en penses, Michel ?
Oui, alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette association a démarré, c'est Evelyne qui a été à l'origine de cette association, qui travaillait dans ce milieu et qui a constaté que ce problème des violences familiales n'était pas bien traité et que les dispositifs n'étaient pas adaptés.
C'était en quelle année la création de l'association ?
C'était il y a 10 ans exactement.
En janvier 2012,
ça fait 10 ans qu'elle existe. Et donc Evelyne, à l'origine de cette association, a démarré toute seule chez elle avec un petit appartement. Elle a commencé à accueillir des femmes qui se retrouvaient à la rue et victimes. Et puis, ça s'est développé et ça s'est structuré avec des salariés et avec un conseil d'administration dont je suis le président. Donc, on a un petit peu une structure comme une société, donc conseil d'administration et puis une direction.
Et 8 salariés.
Et 8 salariés.
Alors, l'association Pause au fil à eau, avant de rentrer dans ce problème sociétal, de savoir effectivement quel est le profil des personnes que vous aidez, est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins, etc. Quel est le but de l'association Pause au fil à eau ? Lucille.
Alors, le but de cette association, il y a deux volets. Il y a un hébergement d'urgence qui accueille des familles et des femmes et leurs enfants victimes de violences conjugales et intraconjugales, et intrafamiliales. Elles sont orientées par le 115.
Le SAMU social.
Le SAMU social, en cas d'extrême urgence et de danger. Donc là, on est vraiment sur un volet de mise à l'abri de ces familles, et on va les accompagner après pendant une certaine durée. Et puis en parallèle, on a aussi l'accueil de jour. Et l'accueil de jour, là, ça répond à un besoin sur l'ensemble du département, qui est plutôt pour prévenir et accompagner ces femmes qui cherchent des réponses, qui souhaitent être accompagnées pour partir d'elles-mêmes, sans arriver à une telle violence par le biais de l'hébergement d'urgence et l'accompagnement et l'hébergement d'urgence.
Dans quel cas on dit que c'est une situation d'urgence ? Dans quel cas, sur quels critères se base le SAMU social pour vous envoyer quelqu'un en disant cette personne c'est une situation d'urgence ?
Il y a des choses qui sont très simples. Ça peut être une femme qui a été mise à la porte par son concubin en pleine nuit. Là, il va y avoir une urgence vitale de reloger la famille et l'enfant. Après, il y a des choses beaucoup plus violentes physiquement parce que ça peut être des femmes qui ont reçu des coups et qui ont été violentées. Donc là, c'est pareil. Elles partent avec un sac, un enfant sous le bras, et elles appellent le 115 et il faut trouver une solution. Voilà, ce sont ce genre de situations auxquelles répond le 115, et le 115 nous oriente ces familles.
Est-ce que vous avez noté une augmentation ou un décru des violences intrafamiliales, conjugales plutôt, dans le Lot, puisque vous êtes, quand je disais vous êtes la seule association dans le Lot à être dans ce créneau-là, je ne me suis pas trompé.
Non, effectivement, oui, ces dernières années, le nombre de places a augmenté. On est maintenant à 23 places, ça a pratiquement triplé en l'espace de 3 ans, même pas, parce que les besoins sont là. Donc l'État, le département nous ont demandé d'ouvrir des nouvelles places, nous aident et nous financent des nouveaux dispositifs pour accueillir plus de monde.
Et là, on en revient à ce que je disais au tout début. C'est parce que la parole des femmes se libère. On a moins honte peut-être maintenant de dire « je suis battue ». Parce qu'il y a 10 ans, quand Evelyne a créé cette association, par souvenir, on n'en parlait pas trop quand même.
Oui, on n'en parlait pas trop. Effectivement, je pense que ça restait
Très confidentiel.
Très confidentiel.
Les femmes étaient battues en silence, même.
Elles étaient battues en silence et elles n'imaginaient pas qu'elles puissent réagir et qu'elles puissent y faire quelque chose. On retrouve toujours un grand sentiment de culpabilité pour les personnes dans ce cas-là.
Ça, c'est ce que tu as remarqué, Lucille. Elles se sentent encore coupables d'être.
Quand elles arrivent, elles se sentent coupables d'être parties, par exemple. Et on a du mal à comprendre pourquoi. Elles ont ce sentiment-là. Le phénomène d'emprise aujourd'hui, il est chez toutes les femmes, est très très important, que ce soit l'emprise psychologique ou je ne sais pas comment le déterminer.
Les emprises, c'est psychologique, financière.
Est-ce que la plupart du temps, ces femmes-là, est-ce qu'elles ont un boulot ou est-ce que justement elles sont dépendantes de ce mari violent au point de vue financier?
Pour beaucoup, elles sont dépendantes financièrement, administrativement.
Aussi.
Ah oui.
Donc le choix de partir, il est lourd de conséquences, en fait, ça se réfléchit.
Ça engendre énormément de démarches, et d'où l'importance d'avoir un accompagnement éducatif et social avec l'équipe pluridisciplinaire qui va accompagner ces femmes pour retrouver une autonomie et une vie de femme et de maman, ou une vie de famille et une automie dans tout ça.
Parce qu'il faut bien... Oui.
C'est très compliqué de partir. On le voit bien, puisqu'il faut, en moyenne, 7 allers-retours entre un départ et puis, finalement, un retour au domicile parce que le compagnon dit que ça ne se reproduira plus, qu'il va changer, que ceci, que cela.
Et elles veulent y croire.
Et donc, elles veulent y croire, parce qu'au départ, elles y croyaient. Au départ, c'est en général, toutes celles que j'ai écoutées disent c'est une grande histoire d'amour au départ.
Oui,
et donc, elles veulent continuer à y croire. Et donc, tout ça fait que c'est en moyenne 7 allers-retours avant de partir définitivement, avant de faire une croix sur ce...
Mais ça doit être flippant de faire 7 allers-retours quand on a décidé de se séparer, de mener notre vie alors qu'on a affaire... Ça veut dire qu'on va recroiser cet homme violent.
La décision n'est pas prise. Tant qu'elle n'est pas définitivement prise, cette décision de partir,
Et c'est aussi une des facettes de notre métier, c'est d'accepter qu'elle puisse à un moment dire « Eh ben non, j'y retourne ». Alors, faut pas le vivre comme une défaite, en fait.
Ça doit être frustrant quand même pour vous, en tout cas, parce que vous savez comment ça va se terminer la plupart du temps.
C'était pas le bon moment. Et puis, elles savent aussi que la porte est ouverte. À partir du moment où elles connaissent la structure, on sait qu'elles pourront y revenir. Donc, il y a déjà une petite graine qui a été plantée. Si c'était pas là, nous, on accompagne toujours les familles en laissant, évidemment, c'est leur propre choix. Nous, on n'intervient en rien. On est vraiment dans l'accompagnement et leurs décisions, c'est elles qui les prennent.
Alors justement, parce qu'il y a cet aspect accueil d'urgence, et pour celles qui ne veulent pas partir comme ça d'un coup, d'un seul, vous avez aussi un accompagnement, on va dire, de jour.
Oui. que j'évoquais tout à l'heure. Et ce travail-là, il est un peu différent parce que c'est une demande. Donc les femmes viennent vers nous, elles nous contactent. Et du coup, on a le temps en amont de préparer juridiquement, de préparer administrativement leur départ, leur divorce. Et du coup, ça évite aussi qu'elles arrivent chez nous par le biais de l'urgence.
Alors, je voudrais préciser, tu dis quand elles viennent nous voir, vous voir, vous, pas seulement, c'est-à-dire que si elles peuvent venir, si elles ont leur autonomie et qu'elles peuvent venir nous voir, elles viennent, mais sinon, Posofilao va dans tout le département, se déplace pour aller à la rencontre de ces femmes, pour mettre au point un rendez-vous, éventuellement le plus discrètement possible, et c'est ça dans tout le département du Lot.
Parce que le problème de la ruralité dans le Lot, effectivement, voilà. Quand on est dans une maison isolée, c'est pas évident. Enfin, je sais pas s'il y a des cas comme ça, mais voilà, on imagine qu'effectivement, on peut pas trop se déplacer comme on peut, discrètement en plus.
On ne peut pas au risque se déplacer. Et effectivement, quand la présence du compagnon est là, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas sortir seuls. Et donc, qui profitent peut-être de quelques instants particuliers d'absence pour fixer un rendez-vous, vous rencontrer, oui. Vous contacter, mm-hmm. Vous rencontrer, tout ça.
Alors, le but de cette émission, c'est aussi de faire tomber un petit peu les idées reçues. Est-ce qu'à Posofilao, vous avez pu faire un profil des victimes ?
Il n'y a pas de profil, en fait. On se rend compte que ça touche toute femme... tranche d'âge, niveau social confondu.
C'est ça qui est étonnant d'ailleurs.
C'est assez fou. Ouais.
On se dit toujours qu'effectivement c'est plutôt dans des cas de familles qui sont dans la précarité ou autre.
Pas du tout.
Et au final, vous nous dites que non, quoi.
Ouais.
Non.
C'est impressionnant.
Alors, après, les deux choses qu'on voit, enfin moi que je vois, parce que je reste quand même assez extérieur à tout ça. Il y a un rajeunissement, c'est-à-dire les femmes sont quand même de plus en plus jeunes, globalement, et souvent c'est au moment de l'arrivée d'un enfant que les choses se passent.
Comment vous interprétez ça alors?
Je pense que le passage du couple seul et puis l'arrivée d'un bébé est un élément déterminant, c'est un élément... très important dans une vie de famille, mais ça peut être aussi un élément très déstabilisant. Et souvent, c'est ça, puisqu'on voit de plus en plus de femmes jeunes avec des bébés enceintes ou avec des bébés très jeunes. Mmh. Et puis des petits-enfants.
Est-ce que c'est parce que, finalement, on en parle beaucoup plus? Il y a eu des campagnes dans les journaux, à la télévision, on en parle dans les infos. Maintenant, effectivement, on compte les décès dus à des violences... les féminicides. Est-ce que finalement, tous ces efforts de communication pour dire aux gens il faut ouvrir les yeux, est-ce que c'est ça qui fait en sorte que de plus en plus jeunes, on comprend que ce que l'on vit... C'est pas normal.
Moi, je pense que oui, et je pense en plus que la place de la femme dans la société on conscientise différemment la place de la femme dans la société. C'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Ça prend du temps, et petit à petit, on arrive à dire que certaines choses sont pas normales et que on est tous égaux, hommes et femmes.
Il était temps, non ?
Oui, il était temps. Puis aussi, il y a quand même une chose, c'est que ces situations sont absolument dramatiques pour les enfants. Et c'est un véritable massacre pour tous ces enfants qui subissent ce traumatisme, quoi. Donc il était temps, oui, de prendre conscience de l'importance de tout ça. Et je pense qu'il faut, bien sûr continuer. Et il faut, j'ai envie de... J'ai l'occasion depuis quelque temps d'aller enseigner dans un collège, et je vois au niveau des classes dans ce collège, il y a un gros travail qui est fait contre le harcèlement scolaire. Et je pense que là aussi, c'est déjà le cas, mais il y a un gros travail au niveau, au niveau de l'éducation à faire. Il faut absolument éduquer les enfants à l'école, les sensibiliser, leur dire que c'est pas normal, que ces situations-là sont pas normales et qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à avancer, à améliorer les choses.
Comment vous les appelez, les personnes, parce que je vais utiliser ce mot-là, vous les appelez les femmes, les victimes, quelles sont vos bénéficiaires, vos résidentes, comment on peut...
Moi, je dis les familles et les femmes qu'on accueille avec
donc, leurs enfants. Donc, les familles et les femmes que vous accueillez, pour un délai de 3 mois, c'est pas 3 mois de repos, par contre. On est d'accord, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses pour que leur vie change. Qu'est-ce que vous faites pour ça ?
Alors, on les accompagne sur un aspect juridique, pour tout ce qui va être dépôt de plainte, procédure juridique. On les réoriente vers des logements autonomes. On les aide sur la partie administrative, réouverture de droits, dissolution de compte.
On comprend, oui.
Voilà.
On enlève le compte joint et chacun a son compte personnel.
Prestations de la CAF, enfin, on va les accompagner pour qu'elles retrouvent une autonomie et qu'elles puissent repartir seules en logement avec leurs enfants.
À pause au fil à eau, vous êtes financé comment ? Parce que tout ça, ça coûte de l'argent.
Oui, oui, bien sûr, ça coûte beaucoup d'argent. On est financé essentiellement par l'État et par le département. La CAF nous aide également beaucoup, puisqu'il y a tout ce côté accompagnement. On a tout un volet dont on n'a pas parlé, mais qui est l'espace de vie sociale. Donc c'est l'après, en quelque sorte. Qui est animation pour la réinsertion sociale et tout ça. Donc là, au niveau de la CAF, on a des aides. Mais je pense que c'est comme ça pour toutes les associations. Je dirais qu'on a, le strict minimum. Et le plus qu'on fait, parce que je pense que le travail de qualité de Pose au fil à eau est reconnu, le plus, il ne peut être fait que grâce à la participation de tout le monde. Donc, c'est les dons, c'est les adhésions, éventuellement des mécènes, des sociétés ou autres qui viendraient nous aider. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à maintenir ce niveau de qualité.
Le 1er février dernier, la marque de vêtements de Vianney, vous avez choisi, dans le cadre de son jour où ses bénéfices sont reversés à une association. Ça a donné quoi ?
Oui, tout à fait. Donc effectivement, Vianney, la marque...
On parle bien Vianney, du chanteur, hein, pour les auditeurs. Chanteur, on parle vraiment du chanteur qui a une marque de vêtements.
Sa ligne de vêtements. Vianney a décidé de consacrer chaque premier du mois... de consacrer les bénéfices réalisés chaque premier du mois à une association. Et donc, on a eu la chance de bénéficier de cette journée le 1er février dernier. Ça a donné... Alors évidemment, le résultat est peut-être moins bon que si ça avait été un 1er décembre, hein, bien sûr. Il s'agit d'acheter des cadeaux, il s'agit de... Mais malgré tout, le très bon côté, ça a été la vision au niveau des réseaux sociaux. C'est-à-dire que cette opération, on a communiqué, nous, sur les réseaux sociaux, Vianney également. Et donc, il y a un grand nombre de personnes, on a fait le bilan ensemble, Lucille, on a eu 1500, 1600 vues, aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Donc des personnes nouvelles qui ont découvert l'association. Je sais que de leur côté, ils ont eu des personnes qui ont été vraiment étonnées, enfin qui ont remarqué Pose au fil à eau cette occasion. Donc je pense que c'est ça le vrai bon côté de
Parce que vous êtes plutôt discret. Alors on comprend bien qu'il y a des enjeux de sécurité aussi, mais c'est vrai que vous n'avez pas de site internet, vous êtes très discret aussi.
Oui, oui.
On connaît dans le Lot, hein, on sait, ouais, mais est-ce qu'on sait réellement vos actions ? Voilà, ça,
ouais,
c'est autre chose.
C'est ça. Ben, le public, c'est la grande question. C'était la grande question il y a quelques années. Il fallait être discret. Et puis finalement, aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de savoir trouvera toujours La discrétion, elle n'existe plus, justement, avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Facilement, je pense, une personne qui a envie de savoir où a pu passer son épouse va trouver, à mon avis. Donc, la discrétion, je pense, n'est plus de mise et de plus en plus, on n'hésite pas. Je pense que le site Internet, ça va être pour cette année. Et les réseaux sociaux, ça fonctionne de plus en plus. Oui. Donc, voilà, je pense que le message, faire savoir que ce qu'on fait et donc permettre aux gens de nous orienter.
Et de nous aider.
Et de nous aider, ouais.
Et puis pour vous aider, comme toute association, vous avez aussi un besoin de bénévoles. Pourquoi faire ? Dans quoi vous avez besoin d'aide ?
Eh bien, les bénévoles, c'est, je dirais, c'est un petit peu comme ça que je suis rentré à l'association. Quand je suis arrivé la première fois, j'ai fait la connaissance d'Evelyne. Elle m'a expliqué un petit peu ce qu'elle faisait. Et j'ai découvert donc l'ampleur de cette situation dans le département. Ça m'a beaucoup surpris. Mais dans un premier temps, je ne voyais pas trop ce que j'allais pouvoir apporter parce que ce n'était pas du tout mon domaine. Et donc, et très vite, j'ai vu les difficultés qu'elle pouvait avoir. Elles étaient quoi, trois personnes, quatre personnes à ce moment-là. Les difficultés qu'elle pouvait avoir avec leur PC, leur ordinateur, leur imprimante qui ne marchait jamais et tout ça. Que tout de suite, j'ai pu donner un petit coup de main dans ce domaine. Et voilà, et aujourd'hui, on a tout un ensemble informatique qui est, à mon avis, digne d'une société.
Ce qui est nécessaire maintenant, en même temps.
Ce qui est nécessaire maintenant.
Après, l'autre
exemple, tu en as parlé tout à l'heure, Lucille, c'est une personne qui a eu une expérience professionnelle à la CAF et qui, aujourd'hui, consacre beaucoup de temps et qui, en fait, vient vraiment vous épauler dans votre travail d'accompagnement des personnes. On en parlait là tout à l'heure. Aujourd'hui, on trouverait une personne qui soit ancien comptable, ça nous rendrait un service extraordinaire. Parce qu'on n'a pas de personnes qualifiées dans ce domaine. Et donc, la comptabilité de base, ne serait-ce que la saisie des pièces et tout ça, on confie tout ça à un cabinet comptable, très bien, mais...
Tout comme vous avez besoin de...
Aujourd'hui, on aurait besoin d'une personne qui accepterait de faire bénévolement quelques heures dans le domaine comptable ou un petit peu secrétariat, ça serait...
Alors, le message est lancé, si jamais vous avez cette possibilité-là, faites-le. Ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent aussi venir vous aider, parce que je sais que, par exemple, vous cherchez des personnes pour les gardes d'enfants, notamment... quand vous allez faire les démarches avec personnes.
Les mamans. Et voilà, c'est déjà...
On peut parler de ce qu'on fait tous les vendredis matin aussi la banque alimentaire.
Ah oui, on a des partenaires précieux avec lesquels on travaille et on a quelques bénévoles qui interviennent pour nous aider à constituer les colis de la banque alimentaire qu'on distribue aux familles. Donc là aussi, on a toujours besoin et on cherche des bénévoles qui auraient envie de s'investir sur d'autres actions qu'on va mener aussi tout au long de l'année par le biais de l'espace de vie sociale, quand on va faire des sorties, des soirées-jeux pour installer et participer aux soirées, évidemment. Voilà, sur tout un tas d'aspects, on va rechercher des bénévoles.
Et pour terminer en quelques mots, on va terminer par ça. Pourquoi Posophilao ? Le nom ?
À Posophilao, le nom. Eh bien, voilà, c'est un petit clin d'œil d'Evelyne à son mari Jo, qui est réunionnais d'origine de l'île de la Réunion. Le filao, c'est cet arbre qui pousse et qui est capable de résister à toutes les tempêtes et à tous les ouragans.
Donc le symbole est fort.
Donc le symbole pose au filao. Eh bien, c'est on espère qu'on apporte cette petite pause ou cette fin à la tempête.
On peut vous trouver, vous contacter, comment ? Vous avez une page Facebook, il me semble. Hein.
Il y a un Facebook Posophilao.
Voilà, donc si vous voulez les rejoindre, vous les contactez déjà par là.
Vous pouvez également, pour contribuer et faire des dons, on utilise la plateforme associative Eloasso. Hein, et donc, Eloasso Posophilao, vous tomberez sur notre page pour donner, pour adhérer.
Merci beaucoup, Michel Arnoux, d'être venu nous parler, président de l'association Posophile à Eau. Merci, Lucille Patronil, d'être venu aussi nous parler de ton boulot d'accompagnement éducatif et social. C'était important que l'on parle, à mon sens, de ça. Et j'étais très ravi de vous recevoir dans cette émission. Ça fait déjà un petit moment que je cherchais à vous inviter. Et vous êtes tellement discret que c'était très difficile de vous trouver. Mais enfin, ça y est, c'est fait. Et maintenant, je suis très content qu'on ait mis un petit peu en lumière. Et j'espère que des gens viendront vous rejoindre. Merci beaucoup d'être passé.
Merci.
C'est la fin de ce magazine. Dans un instant, le journal, rediffusion à 17h et à 21h30.